France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Il fut un homme de bibliothèque, le grand homme d'une grande bibliothèque. Une personnalité d'exception, un être qui ne cherchait pas à séduire, mais qui sélectionnait, pour ce qu'il estimait être sa grande entreprise, des êtres d'exception. Lucien Herr, inspirateur de Jaurès et Blum, catalyseur de la défense de Dreyfus. Lucien Herr, un homme qui savait tout, ou un simple scribe pour les rares normaliens qui ne l'ont pas admiré. Lucien Herr, héros de Profil perdu, dont voici la première partie, diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 novembre 1988.
On va faire un tour à la place Lucien Herr ?
Oui, ce qui n'est pas allé très
loin. C'est pas loin,
comme,
hein.
Oui, comme vous verrez, c'est au bout de la rue. C'est au bout de la rue.
On y va.
Voilà.
Profil perdu. Lucien Herr et la naissance des intellectuels, 1864. 1926.
Chez Léna et Mimi, j'aime bien ça, j'aime bien ce resto.
Manifestement populaire.
Oui, enfin, populaire, avec les jolies balustrades très parisiennes, là. Et puis, j'aime bien la fontaine, j'aime bien les marronniers. Mais alors, la place Lucien Herr, où elle est ?
Bah, c'est un peu à l'image du personnage, c'est-à-dire que c'est un nom qu'on a du mal à situer. De même que Lucien Herr n'a pas sa place dans notre mémoire,
oui.
Tout en étant effectivement un personnage extrêmement important.
Mais là, il y a un petit pan de mur qui est coincé entre la rue Jean Calvin et la rue Tournefort. Et il y a un tout petit pan de mur qui s'appelle Place Lucien Herr. C'est un mur pignon, c'est bizarre.
Une émission proposée par Pascal Werner et réalisée par Marie-Ange Garandeau.
Je crois même avoir constaté il y a fort longtemps déjà, quand je commençais à m'intéresser aux personnages, que les gens ne savaient même pas qu'il existait une place Lucien Herr, y compris les gens du quartier. Il faut en général leur faire remarquer, puisque personne n'habite place Lucien Herr.
Première partie avec Simone Fraisse, Jean Lacouture, Daniel Lindenberg et Madeleine Ribériou.
Alors on va s'installer dans les jardins de l'école parce que finalement ils sont plus tranquilles que la bibliothèque qui est un lieu très très fonctionnel maintenant.
Ça par contre c'est une tradition effectivement autour de ce qu'on appelle le bassin des Ernestes, c'est comme ça que
oui,
ça...
Oui, le bassin des Ernestes.
Oui, ça fait partie du jargon normalien, ça a toujours été un lieu... Vous savez, Romain Rolland parlait du cloître de la rue d'Ulm, c'est un peu ici, c'est un couvent.
C'est un homme de l'ombre, Lucien Herr,
oui,
et c'est
oui.
Une ombre difficile à cerner. Et pourtant, vous avez essayé de la projeter en pleine lumière. Pourquoi ?
Parce que d'abord, c'est ce qu'on peut appeler un homme d'influence, c'est-à-dire c'est quelqu'un... Si vous voulez, je suis venu à Lucien Herr à travers une double interrogation, mais enfin, qui se trouvait se rejoindre en lui, c'est-à-dire sur l'histoire un peu de l'université française
et
sur l'histoire du socialisme. Alors, il se trouve qu'il est absolument stratégique au confluent des deux, en particulier de celle du socialisme, puisqu'il suffit de dire que sans lui, Jaurès ne serait pas devenu socialiste, Blum ne serait pas devenu socialiste, Peggy ne serait pas devenu socialiste, Albert Thomas, la liste est longue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même l'éducateur du socialisme français pour trois générations.
Oui, il faut rappeler que Jaurès avait 5 ans de plus que lui.
Oui.
Blum, quelques années de moins.
Quelques années de moins, oui.
Et Peggy était carrément un étudiant.
Un étudiant. Mais il n'importe, c'est tous des gens qui ont subi son influence, qui a été au maximum, disons, dans la période avant la Première Guerre.
Alors peut-être doit-il une partie de son audience à ce caractère en retrait de son personnage, de sa personnalité, au fait que ce militant socialiste devenu socialiste tôt, 1888-89, enfin la date n'est pas tout à fait sûre.
Madeleine Ribériou.
Ça se situe à ce moment-là, hein, tôt par rapport à d'autres quand même. Donc à ce que ce militant socialiste, qui a été militant dans les partis socialistes et ensuite dans la SFIO lorsque les partis ont été unifiés, ne sait que peu manifester extérieurement d'une façon active. Il n'a jamais été candidat aux élections, à aucune élection. Il n'a pas été député, il n'a pas été sénateur, il n'a pas été conseiller général, il n'a pas participé au cursus honorum de la Troisième République. Et il ne s'est pas non plus beaucoup exprimé politiquement dans la presse. Il est donc en retrait par rapport à cette période. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous nous intéressons à lui aujourd'hui. Nous cherchons des contre-voix, en somme, par rapport aux voix les plus publiques. Et à l'époque, c'est aussi sans doute une des raisons du prestige qu'il a exercé sur des jeunes gens qui ne se destinaient pas aux carrières politiques, qui se destinaient, lorsqu'ils étaient élèves à normale supérieure, lorsqu'ils rentraient à l'école, qui se destinaient à l'université et à la recherche.
Tout ce que ses œuvres nous apprennent de Hegel, tout ce qu'on nous raconte de lui, après sa période d'enthousiasme juvénile et romantique pour la révolution de 1789, tout nous révèle un homme au tempérament simple et immuable. Il reste toute sa vie le souabe, bonhomme et raide, au travail régulier et tenace, l'homme d'intellectualité pure, sans vie extérieure, l'homme à l'imagination interne puissante, sans charme et sans sympathie, le bourgeois aux vertus modestes et ternes, et par-dessus tout, le fonctionnaire ami de la force et de l'ordre, réaliste et respectueux. Il fut plus que personne, peut-être, de ceux qui sont tout d'une pièce et qui ne sacrifient jamais rien d'eux-mêmes.
Lucien R., article de la Grande Encyclopédie sur Hegel, 1890.
Il a écrit, n'est-ce pas, dans le Parti ouvrier d'Allemagne, dans la volonté de Franklin Bouillon et dans l'humanité de Jaurès. C'est lui qui a donné son titre à l'humanité. Il a touché à toutes sortes de domaines, c'est cela qui est le plus frappant. Il a fait le grand article dans l'encyclopédie universelle, n'est-ce pas, sur Hegel, et il préparait un ouvrage sur Hegel qu'il n'a jamais mené à bout, probablement parce qu'il était mangé par son activité de lecteur, de conseiller, une activité inlassable, ce qu'il lit trop n'arrive pas à écrire.
Ah oui.
Enfin, à écrire de longs ouvrages. Je ne me rappelle plus quel écrivain a dit « Quand vous voulez écrire, fermez vos livres ».
Oui.
Lui ne fermait jamais ses livres.
Ah oui.
Il lisait constamment.
Alors, c'était un souci de scrupule ? Qu'est-ce que c'était ?
C'était une avidité. Il a dit lui-même une curiosité vorace.
Oui, oui.
N'est-ce pas ? C'était cette curiosité générale. Il était une encyclopédie vivante, a dit de lui Léon Blum.
Je crois que pour Léon Blum, Lucien R. a été vraiment une sorte de modèle humain. Il se trouve que Léon Blum avait plus de talent, plus de génie, plus de force de communication que Lucien R. Mais il a été profondément marqué, on peut dire modelé, par une certaine structure intellectuelle et morale que Lucien R. lui a communiquée. C'est pourquoi j'ai pensé que le mot de maître pouvait être tout à fait utilisé, un peu comme dans l'univers bouddhiste, par exemple, où on emploie le mot gourou à l'occasion. Je pense que Lucien R. a vraiment été le gourou de Léon Blum.
Et en même temps, on sait qu'il était un directeur de conscience, puisqu'on l'a comparé à Saint-Cyran, un Saint-Cyran laïque, pendant des dizaines d'années à l'école normale.
Mais ce mentor, ça n'est pas un auteur. Il n'a pas laissé vraiment une doctrine.
Parce que souvent, effectivement, bien sûr, c'est normal, on imagine l'influence à travers l'influence d'une œuvre, de livres classiques. Bon, Lucien R. était un homme d'un savoir encyclopédique.
Oui.
En particulier, à une époque, on connaissait mal la philosophie allemande et la littérature allemande en France. Il la connaissait, on peut dire, par cœur, connaissait Hegel par cœur, etc. À une époque où personne n'en savait rien, où il y avait que quelques mauvaises traductions. Et ça a beaucoup compté. Il était absolument magnétique. C'est-à-dire qu'il avait un tel savoir et une telle façon aussi de faire passer les choses, parce que c'était un grand pédagogue, bien qu'il n'ait, là aussi, paradoxe, il n'a jamais donné de cours.
Oui, mais c'est...
C'est-à-dire c'est un auteur, sans œuvre et un pédagogue sans
pédagogie,
enseignement.
Sans enseignement.
Tout se passait effectivement autour de la bibliothèque, où les gens venaient lui emprunter des livres. Il a été un des grands patrons occultes de l'université française, à la fois parce qu'il a inspiré un certain nombre de thèses, de recherches. Il a orienté les gens vers la recherche sur le socialisme, vers l'idéalisme allemand, vers le marxisme. Enfin, il était un espèce de mentor de l'université française républicaine dans son ensemble.
On l'appelait le citoyen.
Oui.
C'est-à-dire qu'il mettait le savoir au service de la cité.
Oui, c'est-à-dire pour lui, le savoir n'avait pas de valeur s'il n'était pas mis à la disposition de tous. Mais ce n'était pas n'importe quel savoir. C'est-à-dire, il s'opposait, par exemple, dans le socialisme aux gens qui étaient des vulgarisateurs au mauvais sens du mot. C'est-à-dire qui finalement, abaissaient la pensée qu'ils voulaient transmettre sous prétexte de la transmettre au peuple, en faisaient un catéchisme indigent. Lui, il voulait que ça reste d'un niveau... C'est un peu le pari qu'il faisait. C'est-à-dire qu'on pouvait transmettre un savoir encyclopédique de haut niveau à travers, sans faire aucune concession, mais le vivifier comme ça la démocratie politique.
Il est né en 1864, donc il, en Alsace. C'est un fils d'instituteur alsacien.
C'est un fils d'instituteur alsacien qui a reçu une éducation catholique. Il a d'ailleurs toujours parlé le dialecte alsacien. Et cette dimension, il ne faut pas oublier, la dimension alsacienne, c'est-à-dire de pont entre deux cultures. C'est pas du tout que Lucien R. se sentait partagé du point de vue de son attachement. Il était français, très national, très patriote français, mais pas oublier le côté, ce sont des gens quand même qui sont de plein pied dans la culture germanique.
Et qui ont connu la défaite aussi, donc qui ont un rapport très paradoxal avec l'Allemagne.
Oui, bien sûr, ce sont des gens qui ont choisi la France.
L'état d'innocence existe encore en Allemagne. Une immense partie de la nation vit et se contente de vivre, satisfaite des idées toutes faites qu'elle a reçues. Il n'y a point d'intérêt vivant et énergique aux choses du gouvernement. Il n'y a point de critique de l'état de choses existants. Ils ont confiance et ils se laissent faire, désintéressés.
Lucien R., note de voyage en Allemagne, 1888.
Il y a un autre personnage qui est son exact contemporain et qui a un itinéraire totalement antithétique, qui est Barrès, qui lui est...
Lorrain.
Oui. Et qui au début fait l'admiration de Lucien R. Alors comment,
absolument,
on peut peut-être expliquer l'époque à travers l'opposition des deux hommes?
Oui, une opposition, vous avez raison de rappeler qu'au départ c'est pas une opposition, c'est un rapport de maître à disciple, c'est-à-dire que faut pas réduire Lucien R à... Et on le voit sur la photo qui est sur la couverture, c'est-à-dire qu'il y a un côté quand même assez jeune homme chic, dandy, c'est-à-dire que c'est pas seulement...
Bon, avec une grande tête de paysan, le géant athlétique paysan,
oui,
comme on disait.
Vous avez vu déjà la tête de Barrès, hein.
Oui.
Je veux dire, c'est pareil à ce moment-là. Non, ce sont des gens qui... Enfin, Lucien R, c'est pas le type du normalien comme il peut y en avoir à toutes les époques, uniquement enfermé dans ses livres, etc.
C'est pas un mondain.
Lucien a été mondain dans sa jeunesse, hein. C'est bien
Lucien
rapporté
a
par...
été mondain, oui.
Il ne l'est pas resté. Disons, il y a eu... Vous savez, de toute façon, tout ce qui touche la vie privée de Lucien R est entouré de grandes zones d'ombre. Hein.
Mais comme tout le personnage, sa vie publique aussi, qu'il écrit sous des pseudonymes, même quand il participe à des journaux, par exemple avec le pseudonyme Pierre Breton, et il apprendra le breton.
Et il apprendra effectivement le breton pour pouvoir connaître tout le cycle des légendes arthuriennes, etc.
Oui, oui.
Mais non, il a été mondain, on le sait, il a été fait tard, et en tout cas il a fait partie de ces gens qui, au Quartier Latin, au Café Vachette, qui est devenu aujourd'hui un fast-food, au coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel.
Oui.
C'était un grand café où se réunissaient les poètes symbolistes, Verlaine et toute la compagnie. Il a été là, et donc il a fréquenté les poètes, c'était la génération wagnérienne. Mmh. On était un peu wagnérien comme on est heideggerien aujourd'hui. Et donc, c'était l'avant-garde. Et il en a été absolument, et comme toute cette jeunesse, il a admiré Barrès, qui précisément, après la publication de sa grande trilogie, a été, comme vous le savez, a été le prince de la jeunesse.
C'est
et donc, R, comme Blum d'ailleurs, quelques années après, a été un disciple de Barrès, et de l'égotisme de Barrès. Et il a fallu l'affaire Dreyfus.
Il y a des traces de tout ça. Il est resté toute sa vie un individualiste
forcené.
Assez forcené, oui.
Oui, tout à fait.
Oui. Et ça, c'est sans doute l'une des clés de son opposition à Jules Guesde, non ?
Tout à fait. Tout à fait. Sans vouloir faire d'anachronisme, il est évident qu'il y a l'éternel conflit là entre un socialisme, disons d'abord à la française, qui est celui de R, parce que c'est compliqué, puisque R, bien que connaissant bien le socialisme allemand et toute la culture allemande, ne choisit pas le socialisme allemand, en tout cas il ne choisit pas le marxisme. Il choisit le vieux socialisme français, il a un culte pour Proudhon, pour les Saint-Simon, enfin pour toutes les, tout ce qu'il y a de français dans le socialisme, qu'il estime supérieur intellectuellement en fait à Lassalle et même à Marx, d'une certaine manière. Et d'autre part, il est contre le caporalisme, le socialisme de caserne des guédistes, c'est-à-dire leur volonté déjà de tout soumettre à un comité central, à une vérité révélée une fois pour toutes. Enfin, ça, il aborde ça, il pense que c'est un... Enfin, il a expliqué ça très bien, parce qu'il y a un petit correctif, que tout de même, quand on dit que Lucien R. n'a pas laissé d'œuvres, il n'a pas laissé d'œuvres publiées, mais il a laissé de nombreux manuscrits tout de même, dont une partie ont été publiées dans les œuvres choisies, et une partie...
En 1932.
Oui, 32 aux éditions Rieder, et une autre partie, j'espère, le sera un jour... En tout cas, on a les manuscrits. En particulier, il écrit un manuscrit vers 1906 qui s'appelle « La Révolution sociale
oui. »,
qui fait tout à fait le point sur ses idées sur le socialisme. On voit très bien ce qu'il oppose aux guédistes, c'est-à-dire, d'une part, pour lui, le socialisme est une recherche, c'est pas un dogme. D'autre part, il est contre, effectivement, une discipline. Il n'est pas contre toute discipline,
oui.
mais il est contre la discipline, disons, d'une secte.
C'est de manquer d'énergie et de ne savoir où s'intéresser que souffre le jeune homme moderne, si prodigieusement renseigné sur toutes les façons de sentir. Eh bien, qu'il apprenne à se connaître, il distinguera où sont ses curiosités sincères, la direction de son instinct, sa vérité. Au sortir de cette étude obstinée de son moi, à laquelle il ne retournera pas plus qu'on ne retourne à sa 20e année, je lui vois une admirable force de sentir, plus d'énergie, de la jeunesse enfin, et moins de puissance de souffrir. Incomparable bénéfice. Il les doit à la science du mécanisme de son moi, qui lui permet de varier à sa volonté le jeu, assez restreint d'ailleurs, qui compose la vie d'un occidental sensible. J'entends que l'on va me parler de solidarité. Le premier point, c'était d'exister. Que si maintenant, vous vous sentez libre des barbares et véritablement possesseur de votre âme, regardez l'humanité et cherchez une voie commune où vous harmonisez. Maurice Barrès, Le culte du moi.
Nous pouvons être et nous sommes individuellement dupes de tels mensonges qui charment et usent notre vie d'êtres sentimentaux et vivants. Peu importe. Pourvu que nous ne soyons point les dupes intellectuelles de la vie.
Lucien R., Le progrès intellectuel et l'affranchissement, 1888-1890.
Il y a quand même quelque chose d'étrange, d'énigmatique, je voudrais avoir votre avis là-dessus, qui est son apostolat de bibliothécaire. Car il le choisit, c'est ce qui fera sa posture stratégique, c'est ce qui fera sa destinée peut-être d'homme d'influence, mais c'est ce qui aussi le laisse dans l'obscurité. On pourrait presque dire une vocation...
Oui, non, mais je crois
presque
que...
Presque clérical, non ?
Oui, c'est tout à fait clérical. Tout à l'heure, je parlais du cloître de la rue d'Ulle,
oui,
c'est une expression
oui.
de Romain Rolland. Sans vouloir faire vraiment de la psychanalyse à bon marché, il est vrai qu'à l'époque, l'école normale, c'est une société de jeunes hommes.
Oui.
Qui pratique, disons, une certaine sublimation.
Oui.
Et en particulier, bon, ça les empêche pas, effectivement, d'avoir des amis au quartier latin, comme la plupart des étudiants de cette époque. Ils se marient tard, mais ils ont une... Mais de Lucien R., justement, là, c'est un peu une énigme. C'est vrai qu'il y a son mariage tardif.
Il a 47 ans.
Il a 47 ans. Donc, il rencontre là une jeune fille originaire de Suisse, etc.
Et c'est elle qui le demande en mariage.
Oui, c'est elle qui le demande en mariage, absolument. Et il fait... Non, mais là, il y a réellement... On peut penser qu'il y a quand même un problème, disons, sur lequel nous n'avons pas tous les éléments. Mais...
Oui.
Donc, il fait que, disons... il y a une espèce de... de transfert chez R de toute son énergie presque libidinale, effectivement, sur le désir. Parce que, bon, il demande à Liard, qui est inspecteur général de... qui est un personnage très important. Il lui demande la bibliothèque exactement comme on demande à un père la main de sa fille. C'est-à-dire, c'est mon plus cher désir, je tremble en vous écrivant, etc. Oui. C'est absolument le style dans lequel les personnages de Fédot ou de la Biche demandent à un père terrible, etc., l'objet de leur flamme, etc. Pas oublier, R est philosophe.
Oui.
Et son destin naturel, il faut se demander qu'est-ce qu'il aurait été normalement s'il n'avait pas été manifestement un personnage d'exception. Il aurait demandé d'être professeur de philosophie à Louis le Grand ou à Condorcet, comme tout le monde. Bon, donc il n'a rien demandé de tout ça, alors que c'était quand même un sujet d'élite. Et il était bien classé toujours.
Il était reçu second à la grègue.
Oui, bon, il aurait pu être premier, mais après tout, je crois qu'attendez, ce Jaurès a été aussi second à la grègue, Bergson premier, enfin, oui. Le deuxième n'était pas déshonorant. Et donc, non, il a demandé ça. Et donc, on peut dire qu'il avait déjà son idée derrière la tête. Il y a des gens qui sont graphomanes, lui, il était plutôt graphophobe. Il a eu un choix, et c'est là qu'intervient, enfin, c'est en tout cas la thèse que j'ai développée, il y a son voyage en Russie, probablement ses contacts déjà avec les milieux révolutionnaires russes, avec l'intelligentsia russe,
oui.
Et le modèle russe d'éducation du peuple, d'influence, justement, à travers en particulier un personnage très important qui est Pierre Lavrov, et qui a été sans doute un des hommes qui a le plus influencé Lucien R., qui est un des pères du socialisme révolutionnaire en Russie, qu'on retrouve dans l'histoire du mouvement révolutionnaire russe, mais que R. a personnellement connu.
Il l'a connu dans son voyage...
À Paris. À Paris, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, Paris est un grand centre d'exilés russes.
Voilà.
Ce qu'on appelle à l'époque les nihilistes. C'est la période, exactement les années 80, où on fait sauter des bombes sur le passage du tsar et des ministres, et ces gens-là, quand ils échappent à la corde en Russie, viennent se réfugier à Paris.
Plus de conscience fermée. Plus d'hommes bons et vertueux parce que tels. Solidarité, ouverture, synergie volontaire ou réclusion voulue. C'est la fin d'un monde et le commencement d'une maturité.
Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans. De bouge, valet de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Il accordait une importance très grande à la notion de savant. C'est-à-dire, il y avait les savants et les autres, tout le monde n'était pas savant. Mmh. Et de ce point de vue, c'est un disciple de Renan, etc. Il croit dans l'avenir de la science et des choses comme ça. Mais par ailleurs, ce n'est pas un élitiste, puisque justement, c'est un socialiste. Il a choisi de militer comme militant socialiste dans le parti socialiste où il y avait le moins de savants, le moins d'intellectuels, qui était le groupe alémaniste.
C'était aussi l'un des partis qui avait un joli nom, ça s'appelait Possibilisme.
C'était une des branches du possibilisme.
Oui.
Mais justement, on ne va pas entrer là dans une description un peu byzantine des sectes socialistes, parce que c'est vraiment très compliqué. C'est aussi compliqué que l'extrême gauche après 1968, etc. C'est à peu près pareil, il y a une douzaine de groupes et des scissions, etc. Donc on ne va pas entrer là-dedans. Mais disons qu'effectivement, il choisit les possibilistes, c'est-à-dire les gens qui sont pour le possible et pas, disons, pour
le grand soir,
la révolution, le grand soir immédiatement, qui pensent qu'il faut faire les choses graduellement, même si leur but, ça reste la révolution sociale. Et ça, c'est quand même même, il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais d'autre part, il choisit, je le répète, le groupe, le véritablement héritier de la Commune de Paris et de, du mouvement ouvrier de 1848, qui est le groupe alémaniste, où il rencontre un tailleur de pierre, un forgeron, un serrurier, etc. Des gens qui sont des autodidactes, c'est-à-dire oui. des gens qui sont caractéristiques de ce milieu ouvrier, de cette élite ouvrière, une autre élite que l'élite universitaire, l'élite ouvrière française, qui est une chose extraordinaire, voilà. où à la fois on est ouvrier, mais en même temps on nourrit des ambitions littéraires, philosophiques, etc., très grandes. Et donc, Lucien Herr a fait la jonction, justement, entre ce mouvement des ouvriers d'avant-garde, etc., très fier d'être ouvrier, très méfiant vis-à-vis des intellectuels, mais avec une volonté de culture de soi-même très grande, mmh. et l'université. Et là, c'est vrai que ça conduit en droite ligne à Jaurès, et par exemple à la première Humanité de 1904, où vous retrouvez à la fois 17 agrégés, c'est vrai, mais aussi des gens comme Eugène Fournière, qui est un ancien tailleur de pierre, et, etc.
Un des grands faits, c'est la réintroduction de l'éthique dans la politique. La politique juridique est morte. Nous n'admettons plus ni la férocité du code militaire, ni la sauvagerie du code forestier, les travaux forcés pour la fausse monnaie. Toute la politique moderne a pour base le dogme que la politique et la légalité n'ont rien à voir ensemble.
1894-1898, Lucien Herr et les Dreyfusards de la veille.
La difficulté de la cerner, l'influence de Lucien Herr, c'est que comme même pendant l'affaire Dreyfus, il n'écrit pas,
Madeleine Rébériot,
nous n'avons pas de réaction à ses écrits puisque ceci n'existe pas. Alors que l'affaire Dreyfus est dans une grande mesure une affaire de presse dans laquelle s'échange en permanence à travers la presse Dreyfusarde, enfin elle est très peu nombreuse et en plus elle est fort divisée, et la presse anti-Dreyfusarde elle-même diversifiée, pas du tout unanime contrairement à ce qu'on dit, mais enfin donc il y a un immense échange de presse entre ces deux types de journaux. Et ces échanges permettent de mesurer l'influence d'un homme politique ou d'un penseur ou d'un intellectuel qui intervient dans l'affaire. Alors, de ce point de vue-là, on ne peut pas mesurer celle de Herr puisqu'il n'écrit pas. Bon, alors il reste l'influence personnelle. Bon, et là, nous la connaissons par les innombrables témoignages que nous ont laissés le milieu normalien sur lequel il a exercé son audience pendant ces années, Peggy, les Tarots et bien d'autres. Bon, Georges Vail et bien d'autres. Aussi par sa correspondance avec ses amis. Nous connaissons pas très bien, mais mieux que pour d'autres quand même, les lettres de Lucien Herr. Nous connaissons ses lettres à Charles Handler, nous connaissons ses lettres à Elie Halévy. Il y a une correspondance de Lucien Herr, qui est d'ailleurs en cours d'édition par des voies multiples, et pas du tout sous la forme d'un volume unique, ce qui est bien dommage. Vous savez que les journalistes et même les intellectuels ne dédaignaient pas ce qu'ils appelaient la lettre ouverte ou le télégramme ouvert qu'on communiquait immédiatement au journal qu'on avait comme ami et qui était destiné à démolir le voisin, enfin l'adversaire naturellement. Le voisin. Donc c'est une manière de faire la lettre qui est aussi une manière de s'exprimer publiquement, mais pas pour Herr, car jamais il ne rend ses lettres publiques, lui, jamais. C'est la correspondance privée.
Donc, sauf dans la Revue Blanche, la lettre avec Barrès.
Sauf dans la Revue Blanche, oui, sauf dans la Revue Blanche.
1er février 1898. Les intellectuels sont de pauvres esprits empoisonnés, des ilotes ivres. Chez l'intellectuel, une demi-culture détruit l'instinct sans lui substituer une conscience. Ces intellectuels sont un déchet fatal dans l'effort tenté par la société pour créer une élite. Dans toute opération, il y a ainsi un pourcentage de sacrifiés. Mais tout en rejetant les intellectuels, nous devons les plaindre plutôt que les maudire. Ils sont à leur manière les collaborateurs de la saine raison française, bien qu'elle leur fasse défaut. Le chien décérébré a rendu des services considérables aux études de psychophysiologie. Le pauvre animal, encore qu'il eût la tête vide, a plus que personne aidé à comprendre les fonctions de l'intelligence.
Maurice Barrès.
Je suis l'un quelconque de ces intellectuels dont la protestation vous a si fort diverti. Mon sentiment sur votre personne politique et sur votre action est celui d'un anonyme et d'un inconnu. Votre idée, c'est que l'âme française, l'intégrité française, est aujourd'hui insultée et compromise au profit d'étrangers par l'infâme machination d'autres étrangers, grâce à la complicité de demi-intellectuels dénationalisés par une demi-culture. Il y a chez vous une idée constante, fixe à force d'être constante, fixe à force d'être, si je compte bien, votre unique idée. C'est l'idée de la race et des sous-races dans la race. C'est l'idée des petites patries locales se fondant dans les petites patries provinciales, se rejoignant dans leurs résultantes communes, dans la grande patrie française, substance unique, âme que vous voulez close et intangible. Cette métaphysique ethnique, si vous la regardiez d'un peu près de votre œil d'analyste, si vous retranchiez ce qu'elle contient de Michelet, de Taine, confusément et hâtivement assimilé, vous y trouveriez bien du verbalisme romantique. Au fond de votre patriotisme provincial, vous trouveriez, en cherchant, la vieille tradition chauvine de la province frontière, la terreur héréditaire des bandes d'outre-Vosges qui, périodiquement, descendaient ravager la plaine. Plus au fond encore, en cherchant bien, vous trouveriez la haine de province à province, de ville à ville, de village à village, la haine barbare, la haine native de ce qui est autre. Au fond de votre patriotisme national, si vous saviez écarter tout ce qui est d'excitation littéraire, vous trouveriez non pas la vieille France, qui avait une tête et qui n'avait pas d'âme, mais la France conquérante, altière et brutale, la France napoléonienne, c'est-à-dire le chauvinisme cocardier des grandes villes, l'instinct passionné de la gloire guerrière, c'est-à-dire encore l'exaltation barbare, la haine et l'orgueil de la force. L'homme qui en vous est les Juifs et est les hommes d'Outre-Vosges. Soyez sûr que c'est la brute du XIIe siècle et le barbare du XVIIe. Et croyez que le monde moderne serait peu de chose s'il n'était l'avènement du droit nouveau, la lente croissance d'une volonté raisonnable, maîtresse de ses instincts et tueuse de ses haines. L'âme française ne fut vraiment grande et forte qu'aux heures où elle fut à la fois accueillante et donneuse. Vous voulez l'ensevelir dans la raideur tétanique où l'on mise les rancunes et les haines. Prenez garde. Vous avez contre vous, à la fois, le vrai peuple et les hommes de volonté réfléchie, les déracinés, ou si vous le voulez bien, les désintéressés, la plupart des hommes qui savent faire passer le droit et un idéal de justice avant leur personne, avant leurs instincts de nature et leurs égoïsmes de groupe. Ceux-là, qui sont la force active, auront raison de vous et des brutalités que vous déchaînez.
Lucien R. Lettre à Maurice Barrès, La Revue Blanche, tome 15, 15 février 1898.
Ce n'est quand même pas le tout premier de ceux qui ont discerné ce manquement à la justice.
C'est Bernard Lazare.
Le premier, c'est Bernard Lazare. Il faut quand même rendre à Bernard Lazare ce qui appartient à Bernard Lazare. Bon. Mais ensuite, il semble bien, parce que Bernard Lazare s'en est expliqué à plusieurs reprises, que parmi les premiers qu'il a rencontrés, il y a eu Lucien R. Et que Lucien R. a été assez vite convaincu, au moins du déni de justice, sinon de l'innocence de Dreyfus, parce qu'il y a deux problèmes différents là. Dreyfus avait-il été condamné selon les règles, justement, selon les règles de la loi ? Première question. Deuxièmement, Dreyfus était-il coupable ou innocent ? C'est deux questions différentes sur lesquelles les Dreyfusards ont longtemps divergé entre eux. Et le rassemblement des deux courants ne s'est fait qu'à partir de l'été 98, quand Jaurès a eu publié les preuves et quand le colonel Henri s'est suicidé, après le suicide du colonel Henri. Bon, donc, et c'est vrai qu'une fois convaincu, il porte cette conviction auprès de ses amis, il dresse des listes, une très belle liste de gens qu'il faut contacter. On a la liste manuscrite de la main de Lucien R., de la liste des premiers intellectuels, il n'emploie pas le mot, qu'il faut contacter pour les convaincre d'intervenir dans l'affaire. Et c'est une liste intéressante parce qu'elle est très diversifiée. Alors voilà la liste d'intellectuels, elle date certainement de l'été 97, au moment où Lucien R. a été donc convaincu qu'il fallait intervenir sur l'affaire de Dreyfus. On ne disait pas encore l'affaire Dreyfus, on disait l'affaire de Dreyfus à l'époque. Voilà donc cette liste de noms d'intellectuels que Lucien R. s'était proposé de contacter. Anatole France, Alévi, Dossonville, Hérédia, Lavis, Gréard, Paris, Boissier, Sully Prudhomme, Cherbuliez, Vandal, premier groupe, Duclos, Roux, ça c'est les scientifiques, Anatole Leroy-Beaulieu, Monod, Frédéric Passy, Givry, Paul Meyer, Perrault, Bréal, puis le groupe des historiens, Seignobos, Langlois, Oulard, Bruno, Le Monnier, puis le philosophe Mélé, Boutroux, Lévi-Bru, Lapel, Boucher-Leclerc, Avet, Painlevé, Perrin, Koenig, Sylvain Lévy, Handler, Bédier, Tannery, Poincaré, Céaille, Charles Richet, Delbet, Glais, Langlois, puis en dessous, Pressensé, qui à l'époque était un homme tout à fait modéré, Bérard, Hervé de Kerouan, Gaston Deschamps, Gaston Mock, Clémenceau, Jaurès, Valfray, Mirbeau, Porto-Riche, Marcel Proust, Hervieux. Alors il y a à la fois des intellectuels, des juristes, des philosophes, des historiens, il y a des savants des sciences exactes, il y a des hommes politiques, il y a des écrivains, il y a des journalistes. Parmi eux, il y en a qui ne deviendront jamais Dreyfusards et qui deviendront très anti-Dreyfusards. Par exemple, Boissier, par exemple, Sully Prudhomme, par exemple, enfin, Lavis n'est pas devenu très anti-Dreyfusards, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été un Dreyfusard particulièrement ardent, quand même, soyons honnêtes.
Donc, on voit bien là le travail d'araignée, enfin, le travail d'araignée que fait Lucien R, tisser une toile, étendre des contacts personnels le plus loin possible, de façon à convaincre. Et ça, c'est un peu votre idée, c'est que Lucien R est un homme de conviction.
C'est un homme de conviction, c'est un homme de l'ombre aussi. Hein, c'est un homme de l'ombre, puisqu'il n'apparaît jamais dans la lumière, ou si rarement dans la lumière, enfin dans la lumière du public. Mais c'est un homme qui se situe à mi-chemin, justement, du privé et du public.
Mais c'est aussi un mode d'action, parce qu'il réussit à étendre le réseau strictement organisé des militants.
Oui, mais enfin, ce réseau était en réalité étendu très au-delà des socialistes, parce que comme socialiste, il est très peu connu. Et son influence, dès le départ, se situe dans les milieux intellectuels, à partir du réseau de normale supérieure, des élèves, mais aussi des professeurs. Mais il vise des personnages qui, en effet, sont extérieurs, aussi bien au réseau socialiste ou des gens proches du socialisme, qu'au réseau normalien, et dont il espère, comme Heredia ou autre, qu'ils se rallieront aux Dreyfusards. C'est bien un réseau élargi, oui, un réseau élargi, c'est vrai, c'est vrai.
Mais Madeleine, vous qui avez signé le manifeste des 121, est-ce que vous ne reconnaissez pas dans ce manifeste, dans ces premiers contacts qui donneront ensuite lieu à toute la campagne de presse qui est inaugurée par J'accuse, le J'accuse de Zola dans le L'Aurore dont Clémenceau est le rédacteur en chef, vous ne reconnaissez pas là un mode d'action qui est au fond généré par Lucien R et qui aura une postérité extraordinaire?
Oh ben tout à fait, non. L'intervention des intellectuels en tant que telle, c'est vrai que c'est l'affaire Dreyfus qui la génère et que dans l'affaire Dreyfus, Lucien R a de ce point de vue-là joué un rôle particulièrement important. Pas solitaire quand même, il faudra peut-être qu'on revienne sur d'autres, mais enfin un rôle très important. Non, j'en suis totalement d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que l'originalité de Lucien R, mais je dirais que c'était aussi la mienne quand je signais le 121, c'est
au
que.
Au moment de la guerre d'Algérie.
C'est que Lucien R est en même temps, et c'est cela que je voudrais ne pas oublier à son sujet, il est en même temps un intellectuel politiquement engagé, car il est en même temps socialiste, même que moi à l'époque j'étais communiste.
Le temps des routines et des expédients est mort. Il faut une doctrine vivante et concrète, non la phraséologie abstraite des Jacobins. Non une philosophie de sens commun, un schéma métaphysique d'une soi-disant structure normale, de la machine sociale normale et bien portante. Mais une doctrine moderne au sens moderne du mot. Les réalités, les désirs, les idées, les idéales, coordonnées et évaluées. Le flair des grands hommes et les assertions des compétences ne suffisent plus.
Il avait une énergie qu'il dépensait, justement, qu'il
montrait
dans ses écrits. C'était un polémiste aussi. Il avait aimé Barrès, il faut le savoir. Et alors, quand Barrès a écrit cet article sur les intellectuels, qui est odieux, n'est-ce pas, au début de février 98, où il a traité les intellectuels de...
De barbares.
Oh, non seulement de barbares, il a eu des mots très durs, il a dit que c'était des chiens décérébrés, des ilotes ivres, des cochons d'Inde pour les laboratoires.
Des protestants, sortes, des juifs.
Mais toutes sortes d'injures assez...
Toutes sortes de barbares.
Méchantes. Alors, il a commencé par regretter que Barrès n'ait pas signé la pétition des intellectuels, de ceux que Clémenceau a appelés les intellectuels le 23 janvier 98. Avant, il n'avait pas ce nom-là. C'est le Clémenceau qui a lancé le nom.
Bon, c'était un adjectif, il en a fait un substantif, un nom.
C'est cela. Et c'est cela que Barrès avait relevé avec mépris. dans son article.
Mais c'est une sorte de retournement de la part de Barrès. C'est pour...
On ne sait pas. Barrès allait fonder la Ligue de la Patrie française quelques mois plus tard. Donc, il commençait à se marquer. Et justement, je crois que Lucien R. a senti cela. Et il a regretté qu'il n'ait pas signé.
Oui, mais...
À côté de Zola, à côté d'Anatole France, à côté de Marcel Proust.
Est-ce qu'on pouvait s'y attendre?
Oh, on pouvait peut-être s'y attendre. Il a dit « Il faut pour les revirements hardis beaucoup de courage simple ou un cynisme résolu. Vous n'aviez ni l'un ni l'autre. » Encore, vous avez hésité jusqu'à ce qu'il fût trop tard. La première liste était publiée, vous ne pouviez pas figurer sur une autre. Bravement, vous vous êtes jeté à l'eau, je crois bien que vous y resterez. Barrès n'y est pas resté. Mais enfin, quand il a lu cet article, il a dit « Je ne savais pas que R était un juif ». C'était assez méchant car R n'était pas juif. Mais ça montrait bien...
Si R l'avait été, c'était pas méchant.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça montrait la partialité anti-juive de Barrès, n'est-ce pas ? Et il ne pensait pas qu'on puisse être Dreyfusard si on n'était pas juif.
Une fois terminée la grande campagne pour Dreyfus, que fait Lucien R ? Il se consacre dans le silence, avec quelques amis à un groupe dit de l'Unité socialiste, qui va jouer son rôle aux origines de la création de l'Humanité, du journal L'Humanité par Jaurès en avril 1904, puis d'ailleurs aux origines de la SFIO. Et il se consacre en même temps à monter une entreprise d'édition, qui s'appelle la Société Nouvelle de Librairie et d'Édition, qui d'ailleurs va fonctionner fort mal, à peu près aussi mal qu'avaient fonctionné les librairies Bellay créées auparavant par Peggy. Bon, il se consacre à ses activités de socialisme, ce qu'on appelle à l'époque du socialisme d'éducation. Bon. Et puis, lorsque le socialisme d'éducation, tel qu'il l'avait compris, s'est effondré, quand la fameuse librairie est tombée en quenouille, et lorsque la Fondation de l'Humanité et de la SFIO, de l'Unité socialiste, est faite, eh bien, il se retire sur ses terres à nouveau. Et finalement, à partir de cette date-là, Lucien R. cesse d'intervenir. Il est quelqu'un qui se retire du public. Il ne garde plus de sa fonction, de son magistère, si vous voulez, que l'influence que lui donnaient ses relations avec les élèves de l'École normale supérieure. Et ça, c'est quelque chose qui reste un peu problématique quand même, qui est visible. Enfin, simplement, la chronologie, les faits ne laissent aucun doute. On peut tenir tout le baratin philosophique qu'on veut, mais les faits ne laissent aucun doute.
Alors, est-ce que ça n'est pas le fruit de déceptions successives? D'abord, le socialisme d'éducation, c'était quelque chose qui venait aussi de ses contacts avec le parti possibiliste, le parti d'Allemagne. C'était une grande vocation des intellectuels et de leur contact avec le mouvement ouvrier. L'échec de la Société Nouvelle d'Édition, c'est un grand échec de Lucien R.
Oui, c'est un échec de Lucien R. Et cet échec lui est commun à lui, à Blum, à Rock, à Mario Rock et à Hubert Bourgin. Alors parmi eux, certains évolueront vers l'extrême droite comme Hubert Bourgin, qui viendra monarchiste. Et puis Léon Blum est donc une grande carrière politique dans le socialisme français. Oui, il y a certainement une part de déception, ou peut-être, je ne sais pas, moi j'aime pas tellement le mot déception.
Ah oui, ça je sais.
Non, peut-être l'idée qu'une page est tournée, oui. Et qu'ils ne sont plus à leur place, ni tout à fait dans la ligne politique de la SFIO, que Jaurès ancre très solidement à gauche dans un rapport très étroit avec le syndicalisme révolutionnaire, avec la CGT syndicaliste révolutionnaire, avec laquelle il y avait peut-être quelques désaccords. Et par-delà la syndicalisme révolutionnaire, même l'acceptation de la ligne politique de Gustave Hervé, enfin, une ligne politique qui fait appel à la grève ouvrière contre la guerre. Il n'est pas certain que Lucien R. ait été très enthousiaste de cette perspective. Donc je pense qu'il y a là un discord politique, et puis, qui ne touche pas les amitiés personnelles, mais un discord politique, un dissent politique, si vous voulez, qui n'empêche pas de rester au parti, interdit de continuer à y militer activement. Et puis, oui, il y a peut-être l'idée que le temps de cette équipe d'intellectuels est terminé, que place à d'autres. D'anciens comme Jaurès et d'autres sont toujours là, exerçant leur pouvoir, leur influence politique, et d'autres apparaissent qui se donnent un pouvoir d'intellectuel. C'est tout ce groupe de ce qu'on peut appeler les normaliens socialistes, issus de l'École normale, qui s'organisent, c'est des anciens élèves du Durkheim, qui s'installent carrément à droite de la SFIO, avec un magistère d'intellectuels dans le parti. Et simplement, Lucien R. a cessé d'exercer aucune influence sur eux. Il n'en exerce plus aucune. C'est clair, ça.
Portrait de famille.
J'ai reçu de Madame Lucien R. une image tellement belle, oui, de son mari. Elle avait rencontré Lucien R. chez des amis. Et je me rappelle encore, en 79, un an avant sa mort, nous parlions de choses et d'autres, et puis elle revenait. Elle revenait à son mariage. Et elle disait... Il avait l'air si bon et si triste.
Ah oui.
Je me dis que je ferai le bonheur de cet homme-là. Et elle l'a fait. Et lui, au début, disait, mais non, elle avait 20 ans de moins que lui. C'est une folie, répétait-il. Elle a eu gain de cause. C'est une femme très énergique.
Elle l'avait épousé quand il avait 47 ans.
Hein? Voyons, elle l'a épousé en 1912, il était né en 64.
Oui.
47, 48 ans. Ils ont été heureux, ils ont eu 3 enfants. Et justement, il était, autour des années 1910, il était assez mélancolique. Sa correspondance avec Charles Handler le montre. Il avait dû rompre avec l'humanité, sans rompre avec Jaurès. Et il avait eu cette histoire de la société nouvelle qui avait duré jusqu'en 1906 et qui lui avait été très pénible. Et sans qu'il le dise, sans qu'il n'en dise jamais rien à personne, c'était un homme très secret. Alors, je crois qu'il a trouvé le bonheur en 1912. Avec Madame Lucien, ils avaient les mêmes goûts, c'était des alpinistes consommés. Ils aimaient les jardins, ils ont acheté une maison au Gros Rouvre, près de Montfort-la-Maurie, et ce bonheur a duré 14 ans. Et sa femme a vécu 40, 50 ans. Elle en a gardé toujours le souvenir le plus attendri, Elle revenait sans cesse aux conditions de leur mariage. C'est elle qui avait eu l'initiative. Elle était une étudiante à cette époque-là, étudiante en art, et elle avait une certaine indépendance de caractère.
Lettre à Ernest Ziromski. Celle que je vais épouser vaut bien mieux que moi. Elle est tout courage, toute énergie, toute clarté. Elle est limpide et droite, et loyale, et robuste, et gaie. Elle te plaira, et je suis sûr qu'elle aimera, comme je l'aime, ton cœur tendre, fidèle et profond.
L'homme d'influence.
R et Jaurès n'appartiennent pas à la même promotion. Jaurès est rentré à l'école en 1978 et R en 1985. Donc il est le cadet de Jaurès. Bon. Il n'y a guère de doute qu'ils se connaissent depuis que R est bibliothécaire à l'école, c'est-à-dire depuis 1988. Bon. R a très vraisemblablement contribué à attirer l'attention de Jaurès sur l'importance que présentaient les origines allemandes du socialisme, ce qui est le sujet de la thèse secondaire de Jaurès. À l'époque, on présentait deux thèses, c'est le sujet de sa thèse secondaire, rédigée en latin, c'était obligatoire, rédigée en latin sur les origines du socialisme allemand. Et cela se comprend d'autant mieux que R est d'abord un très grand hegelien et que c'est aussi un grand admirateur de Fichte. Et que donc, à travers la fascination que Fichte a exercée sur lui, et à travers l'admiration qu'il voue à la pensée de Hegel, il a, très vraisemblablement, enfin, contribué à orienter la pensée de Jaurès dans ce sens. Et donc à préciser l'orientation de Jaurès vers une pensée socialiste, évolution qui n'est pas acquise en 1888, ni en 89. Le moment à partir duquel on peut dire que Jaurès se considère comme socialiste en pensée. Hein. Disons que ça se situe dans l'année 1891-92, au moment précisément où il achève ses thèses de doctorat et où maint texte de lui, des articles de presse notamment et des correspondances, font état de ce qu'il se réclame à partir de ce moment-là du socialisme, mais pas du militantisme. Troisième étape, l'adhésion de Jaurès au socialisme organisé, c'est-à-dire à la lutte politique pour le socialisme, elle date de janvier 1993, lorsque Jaurès est élu pour la première fois député de Carmaux. Sous l'influence de la grève des mineurs, sous l'influence du mouvement ouvrier.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas là, dans ce qu'on appelle la fameuse conversion de Jaurès au socialisme, l'influence de la grève de Carmaux, est-ce que ça n'est pas l'influence de Lucien R qui s'exerce directement ?
Alors, je n'en ai absolument aucune preuve. Je ne vois pas pourquoi. Je dois dire franchement, je pense que l'influence de R a été, elle est constante puisqu'il se voit, etc. Elle est certainement plus faible entre 1889 et 1893 puisque pendant ces années-là, Jaurès rédige ses thèses. Il ne va plus à Paris, il y va encore de temps en temps, mais il n'y va plus régulièrement. Il n'est plus député. Je pense que Jaurès évolue à ce moment-là sous son propre poids, je dirais, oui. D'homme politique qui a été d'abord tout à fait désespéré par les mécanismes de la Troisième République, oui. Du Parlement républicain tel qu'il les a vus se dérouler entre 85 et 89, un régime où il y a beaucoup de scandales, un régime où les gens manquent de pureté, un régime où le capital pourrit. Donc je crois que tout ce discours, enfin sur le fait que c'est R qui a converti Jaurès au socialisme au moment de la grève de Carmaux, à mon avis, il est peu fondé. Cela n'empêche pas que l'influence de R s'est exercée sur lui philosophiquement. R l'a orienté vers la pensée philosophique allemande et il a certainement continué à considérer R comme un ami proche, avec qui il allait parler quand il avait l'occasion de le faire et avec qui il échangeait des idées. Mais je pense qu'il ne faut pas aller au-delà.
Depuis qu'il est devenu une force immense et souple, mêlé partout à la vie des nations. Le socialisme ne suffit plus à être une protestation purement négative et une insurrection platonique ou violente contre les régimes cohérents et stables. Il intervient activement au cœur des régimes surannés et condamnés.
Lucien R., L'Humanité, 18 avril 1904.
Mon intérêt pour Lucien R., c'est une réflexion sur le destin, disons, de ma génération communiste, comme disait Philippe Robrieux,
oui.
C'est-à-dire les gens qui effectivement ont vu dans Louis Althusser un réformateur du marxisme. Il y avait une homologie absolue entre la position de ces deux normaliens à un siècle de distance, c'est-à-dire les deux vivant toute leur vie, du moins pour Althusser, c'est ce qu'on pouvait dire en 68, toute leur vie à l'école normale, pas d'œuvre. Ou pour Althusser, œuvre très tard.
Œuvre tardive,
très tardive. Par contre, influence capitale sur plusieurs générations, par exemple l'influence d'Althusser sur Bourdieu, sur Foucault, sans que personne le sache pendant très longtemps, même encore aujourd'hui. Bon, c'est une influence de même nature. Et également, volonté de peser sur l'histoire à travers la constitution d'une petite phalange de normaliens qui vont ensuite irradier sur le mouvement socialiste dans le cas de Lucien R, communiste, le communisme français, le oui. PCF dans le cas d'Althusser. Oui. Donc cette homologie était fascinante et donc j'ai eu envie de réfléchir sur cette institution, évidemment avec la seule différence dont il était facile de s'aviser, qu'elle était à son lever de soleil au temps de
Lucien
R et un peu à son couchant aujourd'hui. Disons, son couchant c'est trop dire, disons qu'elle se transforme, elle n'a plus le même rôle. L'école normale supérieure dont le but officiel est de former des professeurs. Hein, c'est une école qui forme des professeurs agrégés. C'est ça son but.
Bon.
Mais elle forme pendant la Troisième République des hommes politiques, exactement comme l'ENA d'aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout socialistes comme Édouard Herriot doivent tout à l'école normale supérieure. C'est-à-dire que c'est une école, c'est vraiment le grand séminaire de la République. Et pas seulement le séminaire des professeurs. Mais comme cette république est une république des professeurs, ainsi l'a défini Alberti Baudet en 1927, oui. C'est évident que c'est là où on forme les meilleurs professeurs qu'on forme les meilleurs républicains. Mais c'est une école qui polarise absolument les passions comme, si vous voulez, un peu comme l'ENA d'aujourd'hui. Vous savez très bien que l'ENA est décriée par tout le monde. En même
parce
temps,
qu'elle
tout
est enviée et jalousée.
Tout le monde rêve d'y entrer ou d'y faire entrer ses enfants.
Ses fils, oui.
Ses fils, mais elle est décriée. On parle de l'énarchie, c'est pareil. Donc, il y a vraiment, de toute façon, elle polarise absolument les passions.
Hormis l'affaire Dreyfus, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'échecs Ça ne suffit pas d'inspirer Jaurès, ça ne suffit pas d'inspirer Peggy, ça ne suffit pas d'inspirer Blum. Quand on échoue à faire le journal qu'on veut, quand on échoue à faire la revue d'édition qu'on veut, quand on échoue à rester dans le journal qu'on a contribué à créer, l'Humanité, qu'on s'en va un an après, c'est bien une carrière brisée quand même.
Je pense que sur l'affaire Dreyfus, N'y aurait-il que cette réussite apportée à son actif, cela suffirait tout à fait à sa réputation, et je crois que cette réussite est peut-être, enfin à mon avis en tout cas, vraiment très grande. Il n'y a pas lieu de la minorer, parce que sans lui ou sans Bernard Lazare, qu'il a connu, et qui est aussi une personnalité passionnante, il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus. En ce sens que la mobilisation des intellectuels, justement, toute l'influence dont on a parlé tout à l'heure, l'influence de Lucien R. dans l'université, sur le parti intellectuel, comme a dit ensuite Peggy, a été mobilisée à cette fin. C'est-à-dire les listes de signatures, la conviction, le fait de convaincre les gens un à un, le fait de pouvoir réfuter les faux des anti-Dreyfusards par les méthodes même de la philologie universitaire. Tout ça, c'est quand même son action directe. Et puis, il y a l'autre aspect que Lucien R. a développé pendant cette période, qui est le fait que l'école normale, il y avait quand même un aspect affrontement physique, militaire, dans le quartier latin, dans Paris. Et l'école normale, et ça, c'est une analogie que je ferai avec la période de 68, a été un lieu d'où tout partait. Dont on préparait les bagarres, les actions du lendemain à l'école normale supérieure, c'est-à-dire pendant cette période fin 1898 et puis toute l'année 1899 où il fallait effectivement être là et se battre avec les camelots les futurs camelots du roi, avec les nationalistes. Et ça, Lucien R. a organisé nombre d'actions, de manifestations, etc. C'est l'époque la plus active et sans doute politiquement la plus heureuse de sa vie. Alors, bien sûr, l'échec, on peut voir ça, effectivement, la vie de Lucien R. comme un cimetière d'initiatives avortées. On peut aussi penser qu'il lui suffit d'avoir eu quelques grands moments, comme par exemple le dernier qui a été le congrès de Tours. Le discours de Léon Blum au congrès de Tours a été rédigé par Lucien R. chez lui, avec une petite participation de Léon Blum, mais de l'aveu de Blum, c'est et Madame Lucien R. qui me l'a confirmé. Enfin, elle m'a raconté la scène, etc. Elle y a assisté. C'est absolument fondamental, c'est-à-dire la volonté de maintenir un parti socialiste en dehors de l'Internationale communiste, et un parti qui n'est pas honte de lui-même, a été largement, disons, le dernier, c'est le testament de Lucien R.
On est bien là dans ce jardin, hein, avec l'odeur des buis.
Je pense que oui, c'était un des aspects, un des bénéfices secondaires que Lucien R. avait ici, où il était entouré de cette phalange un peu athénienne de jeunes gens. Enfin, le côté, vous savez, c'est le côté platonicien, parce que la génération de 1920, Henri Lefebvre, Paul Nizan, Jean-Paul Sartre, etc., ont connu également cette tentation de créer ici une espèce d'utopie platonicienne, enfin, de,
vrai, oui.
de ce qu'ils appelaient l'île de la sagesse, etc. Enfin bon, ça c'est vraiment induit par, en tout cas c'était induit par l'institution, encore une fois, qui n'était pas ce qu'elle est devenue.
Oui, il y a les arbres, il y a la lumière, il y a les arcades, et ça fait penser, c'est vrai, à cette petite communauté socratique.
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est l'adjectif qu'on appliquait à Lucien R.
On
disait
fait,
que c'était un personnage
sûr.
Magnétique qui avait une capacité d'accoucheur devant
oui.
ses interlocuteurs.
La maïeutique, voilà. Oui, bien sûr. Et puis d'autre part, comme Socrate, justement, Socrate n'a rien écrit.
Oui.
Et figure quand même.
Oui, mais il
à
a eu son Platon.
Oui, voilà, il a eu Platon. Ben, Lucien R. a eu Jaurès, Blum, Jean Hippolyte, etc.
Oui, oui.
Ce n'est pas rien.
Profil perdu. Lucien R. et la naissance des intellectuels, 1864-1926. Une émission proposée par Pascal Werner avec Simone Fraisse, Jean Lacouture, Daniel Lindenberg et Madeleine Ribériou. Texte de Lucien R. lu par Jean Bollery. Texte de Maurice Barrès lu par Muriel Silan. Mixage, Marie-Dominique Bougot, Noélie Louis-Marie. Chargée de réalisation, Marie-Ange Garandeau. Suite, Lucien R., le prince du grenier, selon l'expression de Georges Canguilhem, avec Jean Bayou, Simone Fraisse, Henri Guillemin, Jean Lacouture, Géraldine Leroy, Daniel Lindenberg, Madeleine Ribériou et Jean-François Sirinelli. À lire, Daniel Lindenberg et Pierre-André Meyer, Lucien R., Le socialisme et son destin chez Calmann Lévy, Charles Handler, biographie de Lucien R., réédition La Découverte, et choix d'écrit de Lucien R., édition Rieder, 1932.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 novembre 1988. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, deuxième partie de cette émission.